12h15. Anthony Montandon.
D'Abeillon à Glovelier. L'édifice était en chantier depuis 2 ans. Le montant total des opérations s'est élevé à 200 000 francs pour l'association qui la gère. La Grande Guerre s'est terminée il y a 100 ans et dans la région aussi, on célèbre la fin des combats. La section suisse de l'association du Kilomètre Zéro organise une commémoration en ce moment même à Bonfol et au Largin. L'occasion pour se replonger dans cette période, ce sera dans notre magazine de la rédaction. En saut d'obstacle, l'équipe de Suisse a échoué au pied du podium aux États-Unis, mais elle a terminé 4e des Jeux mondiaux hier. Mais ce résultat lui permet quand même de décrocher son ticket pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo. Le ciel devrait rester voilé aujourd'hui sur l'ensemble de la région, mais aucune averse n'est à craindre. Le mercure grimpera au mieux jusqu'à 19 degrés en plaine et jusqu'à 15 à 1000 mètres. La ferme de la Combe d'Abeillon à Glovelier s'offre une cure de jouvence. L'édifice qui accueille des classes vertes ainsi que des fêtes de famille a inauguré ce matin la fin des travaux entamés en 2016. Le bâtiment est géré par l'association des amis de la Combe d'Abeillon qui avait décidé en 1977 de sauvegarder la ferme alors à l'abandon. Des dortoirs de 30 places au total avaient ainsi été aménagés. Les récents travaux de rénovation qui ont été menés par l'association des amis de la Combe d'Abeillon ont coûté environ 200 000 francs. L'argent a été apporté en grande partie par des donateurs. Le président de l'association nous décrit quels aménagements ont été réalisés. Fabien Lachat.
En 1977, quand l'association des Amis de la Combe s'est créée, ils ont rénové plutôt l'extérieur pour l'accès, parce que c'était une ferme en ruine, et aussi l'intérieur. Mais ils n'avaient pas les moyens de rénover totalement le toit. Et puis là, en 2016, on a pu totalement rénover le toit, comme ça le bâtiment est en ordre pour un siècle.
Vous avez voulu absolument garder le cachet, le style ancien. On imagine que ça engendre des complications supplémentaires.
Là, c'est un vieux toit, donc c'est un bâtiment qui date des années 1800. C'est un toit avec des vieilles tuiles, petites tuiles. Donc l'idée, c'était de conserver cet aspect du bâtiment un peu ancien. Donc effectivement, le surcoût pour remettre des petites tuiles neuves d'environ 30 000 francs, donc on a dû trouver des aides financières pour pouvoir refaire ça en l'état.
Une restauration célébrée par un clou rouge d'1,70 m. La section jurassienne de patrimoine suisse a décidé d'honorer le bâtiment situé à la rue du Nord 18 à Delémont. Pour ça, elle va ériger l'objet géant juste devant la bâtisse. Il y restera jusqu'au 4 octobre. Le but, inviter les gens à découvrir cet édifice particulier. Après Roche au début du mois et maintenant Delémont, le clou reprendra ensuite sa route. Il fera escale le 6 octobre à Chevenay. Au total, 17 sites romans seront distingués de cette façon. À l'étranger, un attentat fait 8 morts et une 20aine de blessés en Iran. L'attaque visait une parade militaire organisée pour la journée nationale des forces armées dans l'ouest du pays. Elle a été menée par 2 hommes qui seraient liés à un groupe séparatiste arabe selon les médias officiels. Ils ont pu être neutralisés par la suite. Téhéran accuse un régime étranger soutenu par les États-Unis d'être responsable de l'attentat. Le bilan s'alourdit en Tanzanie après le naufrage d'un ferry sur le lac Victoria. Ce sont maintenant au moins 161 personnes qui ont perdu la vie. Les recherches se poursuivent toujours en ce moment. 37 naufragés ont déjà pu être secourus. Au total, le bateau transportait près de 300 individus. Le choléra fait des ravages au Nigeria. Une épidémie sévit actuellement dans le nord-est du pays. 100 personnes en sont déjà décédées selon les Nations Unies. Au total, plus de 3000 cas ont déjà été recensés dans cette région, déjà touchée par des conflits avec le groupe djihadiste Boko Haram.
Le magazine.
La fin de la Première Guerre mondiale est également célébrée dans la région. Les combats se sont terminés il y a 100 ans avec l'armistice du 11 novembre 1918. La section suisse de l'association du Kilomètre Zéro organise une commémoration qui se tient en ce moment à Bonfol et au Largin. L'endroit se situait à la ligne de front entre les armées allemandes et françaises. Il était également occupé par les troupes suisses qui gardaient la frontière. Des interventions d'historiens sont au programme, de même qu'un repas militaire et des visites du sentier didactique Jacques du Largin. Le responsable suisse de l'association transfrontalière du kilomètre zéro nous explique quel était l'état d'esprit dans la région dans les derniers mois de la Grande Guerre, l'historien Hervé Devec.
Dans nos régions, à Bonfol en particulier, on ne sent pas la fin imminente de la guerre. On a toujours des craintes concernant une éventuelle intervention française ou allemande en Ajoie. On est très francophile dans la population et lorsque l'armistice sera signé, et surtout un peu plus tard en 1919, lorsque la fête de la paix sera organisée en Ajoie, eh bien on manifestera sa francophilie très forte. J'en voudrais pour preuve le discours du procureur du Jura qui, on est en juin 1919, accuse l'Allemagne de tous les péchés. C'est elle qui a déclenché la guerre, c'est celle la seule qui a commis des horreurs, qui a détruit des biens culturels magnifiques en Belgique. Bref, c'est la seule responsable de la guerre qui doit payer. Et ça, c'est très significatif, je pense, de l'attitude aussi de la population.
Les soldats, à la fois suisses, français, allemands, qui se côtoyaient sur cette portion du territoire du Largin, comment est-ce qu'ils ont accueilli la fin des combats et quelles étaient finalement leurs relations entre eux ?
Alors d'abord les relations, les Suisses, soldats d'un état neutre, ont des relations frontalières, j'allais dire, au Largin, aussi bien avec les Français qu'avec les Allemands. On échange des bricoles avec les Français amènent du papier à cigarette, les Suisses du tabac burus. Du côté allemand, c'est un peu différent. Les Allemands apportent ce qu'on appelle l'artisanat de tranchée, entre autres des douilles sculptées et autres bricoles de ce genre. Et en contrepartie, ils demandent de la nourriture, ce qui est très significatif de la pénurie qui règne en Allemagne, même l'armée est rationnée. L'armistice pour les soldats suisses, c'est l'espoir d'abord d'être démobilisé et de rentrer chez soi. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas de caisse de compensation, le mobilisé perd son salaire, il y a des problèmes de pauvreté, on a 630 000 indigents en Suisse, dus en grande partie à la mobilisation.
Pour les soldats, finalement, la fin des combats, est-ce qu'on a pu assister, au Largin ou ailleurs, à des scènes de fraternisation entre Suisses, Français ou entre Suisses, Français et Allemands ?
Des soldats, je ne pense pas, parce qu'il y a la discipline militaire et puis on tenait à respecter scrupuleusement le statut de neutralité. Mais dans les villages frontaliers, donc à Bonfol, on peut parfaitement imaginer, je n'ai pas de preuves documentaires, mais une fête binationale avec les habitants de Fétrouze ou autres villages avoisinants et des gens de Bonfol qui partaient à Fétrouze célébrer l'armistice et bien entendu la paix.
Ces relations entre soldats des différents belligérants, mais aussi les soldats suisses qui étaient neutres, on imagine que ça a aussi déteint sur la population qui a aussi entretenu des relations avec ces soldats.
Dans nos régions, je dirais, le fossé se manifeste. Les Romans sont très francophiles, les Alémaniques sont très germanophiles. Ce qui peut être étonnant a priori, c'est que qu'on ait des troupes alémaniques en Ajoie ou des troupes romandes, les contacts avec la population sont bons. Je pense que ça s'explique par le fait qu'en Ajoie, en particulier, on souhaite être défendu, on croit être défendu par ces troupes, alors qu'elles soient alémaniques ou romandes, qu'importe. Mais en réalité, ce qu'il faut constater, c'est qu'elles étaient là surtout, non pas pour défendre l'Ajoie, mais pour gagner du temps en cas d'invasion, gagner le temps que la position des rangées soit solide et organisée.
Avec aussi, on l'imagine, comme c'est souvent le cas, en plus en période de guerre de rationnement, des phénomènes de contrebande auxquels la population ou une partie se livre.
Alors la contrebande, je pense que chaque fois qu'il y a conflit dans une région frontalière, il y a de la contrebande. Au Largin, ce qui est peut-être pittoresque à souligner, c'était un haut lieu de contrebande. La ferme est occupée au moins par une compagnie, 100 soldats, mais le propriétaire fait vraiment en gros de la contrebande. Les douaniers de Bonfol écrivent à leurs supérieurs, c'est scandaleux, Monsieur Gelin est un contrebandier invétéré. Effectivement, il va prendre livraison à la gare de Bonfol de quelques centaines de kilos de café, quelques centaines de kilos de sucre et autres marchandises qui ne sont pas réservées à son usage personnel, mais bel et bien à des ventes à des Alsaciens.
Hervé Devecq était au micro de François Comte à l'occasion de la journée commémorative de la fin de la Première Guerre mondiale à Bonfol et au Largin.
Sport.
Du chocolat amer, mais au goût olympique pour les cavaliers helvétiques, Bertrand Boya.
Et oui, l'équipe de Suisse de saut d'obstacle s'est classée au quatrième rang hier soir lors des Jeux équestres mondiaux à Trion, aux États-Unis. Grâce à cette place en Caroline du Nord, la Suisse obtient sa qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Elle a raté le podium pour plus de 6 points et peut nourrir bien des regrets, les précisions de Marcel Lehnschwander.
L'équipe dans laquelle figurait le jurassien Steve Gerda avait tout en main pour faire mieux au classement final et même pour aller chercher l'or pour la première fois de son histoire dans ses joutes. Mais les Helvètes se sont effondrés hier, eux qui menaient le bal après les deux premières épreuves. Lors de ce vendredi noir, Werner Mouff a été puni de 13 points, mais le véritable coup de massue s'est produit lors du passage de Yannika Sprunger, irréprochable jusque-là. Hier, son cheval, Bacardi, a craqué. Une faute sur le premier obstacle, puis deux refus sur le deuxième obstacle, synonyme d'élimination. La Suisse reculait au cinquième rang, les espoirs de sacre s'envolaient. Martin Fuchs et son sans-faute, ainsi que Steve Gerda, auteur de 4 points de pénalité, permettaient à la nation de grappiller un rang. « Nous sommes tous dévastés, on peut parler d'une catastrophe. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas oublier un jour pareil dans une vie de sportif », a lâché le chef d'équipe Andy Kistler.
Et la victoire par équipe de ces Jeux équestres mondiaux est revenue aux États-Unis devant la Suède et l'Allemagne. Des Jeux équestres mondiaux qui se poursuivent demain avec la suite des épreuves individuelles. Les 25 meilleurs s'affronteront pour le titre au cours de 2 manches. 2 Suisses seront en lice. Steve Gerda avec son cheval Bianca pointe au 9e rang avec 5,53 points de retard sur la tête. Et Martin Fuchs, 3e provisoire avec 2,21 unités de retard sur la leader, l'Allemande Simone Blum. Le HC Bienne a lancé sa saison de National League du bon patin. Les hockeyeurs zélandais ont gagné 3-0 à domicile contre Genève Servette hier soir. Premier match de championnat et premier blanchissage pour le gardien Jonas Hiller. Ses coéquipiers Jason Fuchs, Fabian Lutti et Marco Pedretti ont marqué pour les locaux. Un HC Bienne déjà convaincant avant son déplacement à Lausanne ce soir. Jérémy Pignard.
Oui, pour une première en championnat, il y avait déjà du contenu, du mouvement en attaque, un pressing très haut qui a beaucoup gêné Genève et même sans Beat Forster et Samuel Kreis, une défense très sereine. Bref, la première idéale pour Marco Pedretti, buteur hier soir.
Gagner 3-0 à la maison pour un premier match, c'est parfait. Genève a une bonne équipe qui joue très physique et puis on a su faire la différence quand il fallait. Puis on avait comme consigne de rester calme, de ne pas répondre aux provocations. Puis je pense que c'est ce qu'on a fait aussi et puis le score illustre bien notre match.
À relativiser toutefois au vu de la faiblesse affichée par Genève, une équipe peu renforcée à l'intersaison et l'une de ses recrues, l'américain Wingle, s'est sortie dès le premier tiers. Ce sera sans doute plus compliqué ce soir à Lausanne, prévient l'attaquant Jason Fuchs.
Lausanne a de très bons joueurs, ils ont engagé de très bons joueurs, donc ça sera vraiment intéressant d'aller là-bas et puis il faudra vraiment de la solidité défensivement parce que je pense que Lausanne, ils ont une grosse attaque. Il faudra vraiment construire depuis l'arrière dans le sens où on doit être compact derrière et puis se projeter en avant quand on en a l'occasion. Puis comme aujourd'hui, si on garde le puck dans la zone offensive, c'est eux qui n'ont pas le puck, donc c'est toutes des chances de marquer en moins qu'ils ont.
Et bien abordera ce déplacement avec le plein de confiance, tout comme Lausanne qui a aussi soigné sa première en l'emportant 5-1 à Fribourg hier soir.
Lausanne HC Bienne, c'est à suivre en direct dès 19h30 sur RJB. Un match que Marco Pedretti ne pourra pas disputer. L'attaquant jurassien du HC Bienne a écopé d'un match de suspension après sa charge à la tête du jeune voyou Anne Fransson hier soir. La Ligue qui a communiqué ce matin a ouvert une procédure à l'encontre de Marco Pedretti. A noter encore que le HC Bienne, après le tirage au sort d'hier, jouera à Kloten, pensionnaire de Swiss League, lors du 8e de finale de la Coupe de Suisse le 21 octobre. Toujours en hockey sur glace, le HC Ajoie veut se remettre de sa fessée en Coupe de Suisse. 4 jours après son élimination contre Lausanne, le HCA retrouve le championnat de Swiss League ce soir face à Viège. Coup d'envoi à 20h à Porrentruy. Un adversaire que connaît bien le Canado-Suisse Nicolas Thibaudeau. Le nouvel attaquant Ajoulo évoluait ces 2 dernières années à Viège. Il reste sur une saison à oublier, minée par des pépins physiques. Nicolas Thibaudeau en garde un mauvais souvenir.
Très dur physiquement, très dur mentalement. Et puis, je pense que j'ai réussi à une certaine façon à rebondir. Et puis, c'est quand on touche le fond qu'on remonte plus fort.
L'an dernier, vous n'avez pas beaucoup joué à Viège. Cette année, du coup, qu'est-ce que vous êtes venu chercher à Porrentruy, à Ajoie?
La santé. principalement de la santé, pas de blessures. Et puis, on va essayer de sortir une bonne saison comme j'ai sorti ma première bonne saison en Ligue B. Pas nécessairement un goût de revanche, mais un goût de jouer au hockey parce que c'est le travail que j'ai toujours voulu faire. Puis, quand tu passes une saison complète presque blessé, tu joues pas trop au hockey. J'ai pas envie de devenir bodybuilder, faire du bench press à tous les jours, ça ne m'intéresse pas trop. Je veux profiter de jouer au hockey. Tout en étant mon travail, je veux jouer.
Et vous avez retrouvé le sourire à Ajoie?
Et j'ai retrouvé le sourire. Tout va pour le mieux en ce moment.
HC à Viège, c'est à suivre en direct ce soir sur RFJ dès 19h45. Toujours en hockey sur glace, mais en première ligue, les deux équipes de la région lancent leur championnat ce soir. Franche-Montagne reçoit Sastal à 17h15, Saint-Imier en visite à Adelboden à 20h15. On reste dans le hockey sur glace, mais on traverse l'Atlantique où le jurassien Valentin Nussbaumer est affûté. L'ancien joueur du HC Bienne a inscrit 3 buts lors du premier match officiel de son équipe de Shawinigan dans le championnat de Ligue de hockey junior majeur du Québec. La nuit dernière, sa formation l'a emporté 6-5 après prolongation face à Sherbrooke à domicile. On conserve Canigan, mais on change de surface. Les quarts de finale des playoffs démarrent aujourd'hui en Liga d'Inline Hockey avec l'acte 1. Rosemaison accueille Buis. Bienne Skater 90 va défier Givisier. Bienne Selanders joue sur la piste de Rotrist. Ces trois parties commencent à 18h. En football, les trois équipes régionales de 2e Ligue interrégionale sont sur le pont aujourd'hui. Moutier se déplace chez la Lanterne Rouge Tübingen à 16h pour tenter d'oublier le revers de mercredi à domicile contre Konolfingen. À la même heure, Cornol Labaroche reçoit Pristina Berne pour essayer de signer la passe de 2. De son côté, Tavan Tramelan se rend à Timaobal à 16h30 en vue de remporter un 3e succès de suite. Ces trois formations chercheront à s'éloigner de la zone rouge. En 2e Ligue, l'unique rencontre qui avait lieu hier soir entre le leader Bézabienne et Courtetel a été arrêtée après quelques minutes de jeu, la cause de fortes rafales de vent. Et dans le groupe 8 de 3e Ligue, une partie s'est déroulée hier soir, victoire 2-0 de Chevenay sur le terrain des SR de Lémont. La combinaison Roger Federer-Novak Djokovic n'aura pas brillé lors de la Lever Cup. En clôture de la première journée de la compétition de tennis par équipe à Chicago, la paire formée du Balois et du Serbe s'est inclinée en 3-7. Le détail 6-7, 6-3, 10-6 face au Sud-Africain Kevin Anderson et à l'Américain Jack Sock. Malgré cette défaite, l'Europe mène toujours 3-1.
RJB, c'est savoir tout ce qui se passe dans la région. Vous organisez une manifestation, passez par RJB. Du lundi au vendredi, appelez-nous au 032.
Le beau temps va persister en cette journée malgré des températures qui sont fraîches, des températures qui en ce moment aussi entre 15 et 19 degrés selon les régions. Demain les températures seront à la hausse, elles oscilleront entre 21 et 26 degrés. Par contre, il faudra s'attendre à des dégradations durant la nuit. Des dégradations sont annoncées par Météo News. En plus de la pluie, ils annoncent de fortes rafales de vent. Du côté des températures lundi, eh bien, ce sera toujours du frais, mais le soleil sera de la partie déjà en matinée.